Gloire au Seigneur. Je vous invite à ouvrir le Saint-Livre, on va faire une lecture. Dans le livre des Actes, au chapitre 3, et nous allons commencer la lecture à partir du verset 1er. Nous lisons « Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il leur regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le monde, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous ?» comme si c'était par notre propre puissance ou notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. C'est un texte qui est toujours marquant et qui nous interpelle et qui doit nous enseigner. On ne sait pas beaucoup de choses sur cet homme, mais le peu qu'on en sait nous apprend quand même quelle était sa manière d'être, sa manière même de penser, ce qui finalement il y avait un petit peu au fond de son cœur. La Bible nous dit que on le portait tous les jours. Il ne pouvait donc pas se déplacer seul. Ce n'était pas une petite infirmité. Il ne pouvait pas se déplacer tout seul. Tous les jours, donc, on l'amenait devant cette porte dite appelée la Belle pour qu'il puisse faire l'aumône. Son quotidien était de demander des sous. On comprend que cet homme n'était pas du tout intéressé, ou du moins en tout cas, s'il a été une partie de sa vie, lorsque ce texte est écrit, cet homme n'était pas du tout intéressé par Dieu. On voit qu'il n'était pas intéressé par la prière, on voit qu'il n'est pas intéressé par Dieu, on voit qu'il n'est pas intéressé de rentrer dans le temple. C'est en lisant ces quelques versets que nous avons lus, c'est ce que nous pouvons en conclure. Puisque Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, et que lui ne demandait pas qu'on l'amène pour prier. Ce n'était pas une heure exceptionnelle, c'était inscrit dans l'emploi du temps. C'est aujourd'hui, on pourrait dire, c'est inscrit sur le site internet de l'Église. C'était quelque chose que tout le monde savait, que tout le monde connaissait. Mais cet homme n'était pas intéressé à aller prier. On voit Et c'est la parole qui nous le dit également, c'est ce que nous avons lu, que cet homme demandait l'aumône à tous ceux qui rentraient dans le temple, mais nullement on voit que cet homme était intéressé, lui, de rentrer dans le temple. La seule chose, finalement, que cet homme, par laquelle il était intéressé, c'était de faire l'aumône et c'était d'être assis devant la belle porte de ce temple. On pourrait dire, on pourrait traduire cela, et ce n'est pas aller au-delà de ce qui est écrit, que finalement, cet homme, en étant assis devant la belle porte du temple, finalement, il tournait le dos à Dieu pour aller vers le monde. C'était comme si cet homme, il avait comme résolu dans son cœur que finalement, la religion ne pouvait pas lui venir en aide. Elle pouvait servir ses propres intérêts, elle pouvait l'aider à subvenir à ses besoins. L'engagement des autres pouvait lui être utile, mais en tout cas pour lui, c'était pas utile. Il y a quelque chose qui pouvait résumer, définir sa vie, je l'ai dit, mais j'y reviens volontairement parce que quand même c'est ça qui doit nous intéresser. Finalement, c'est que tout le monde allait au temple, tout le monde rentrait dans le temple, mais lui ne rentrait pas dans le temple. Et c'est un thème qui est développé dans toute la parole de Dieu. C'est quelque chose qui est là, le fait de pouvoir rentrer. Notre frère, en introduisant les chants, nous a parlé que Jésus était la porte, et c'est ainsi, ce thème revient, qu'on le veuille ou pas, de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a cette notion d'être avec Dieu, ou sans Dieu, d'être à l'extérieur ou de rentrer, d'être dedans. On pourrait le dire de cette manière et peut-être ça va vous faciliter la compréhension. On pourrait dire il y a ceux qui sont dans l'arche et ceux qui sont en dehors de l'arche. Il y a ceux qui étaient à Sodome et ceux qui sont sortis de Sodome. Et cela s'est répété dans la parole de Dieu parce que nous devons savoir où est-ce que nous en sommes. Nous devons être capables de nous positionner et de dire, mais effectivement, où je suis avec Dieu, où je suis sans Dieu, où je peux aller dans le temple. Et quand je dis aller dans le temple, vous comprenez bien que ça symbolise pour nous ce soir la communion avec Dieu, la relation, le fait d'avoir expérimenté ce que nous avons chanté. Il n'est pas question de venir à l'église, mais c'est d'avoir expérimenté celui qui est l'auteur de la vie. Et cet homme, lui, voyait tout le monde aller au temple. Cet homme savait qu'il y avait la prière. Cet homme savait qu'on parlait de Dieu. Et rien ne se passait dans sa vie. Et Pierre et Jean arrivent. Et naturellement, on comprend qu'il ne va pas plus réfléchir. Peut-être qu'il en avait entendu parler, c'est possible. Peut-être que le soir, lorsqu'il était ramené, les personnes qui le ramenaient, peut-être leur parlaient de ce que Jésus avait fait, des apôtres, du travail qu'il faisait. Toujours est-il que ça devait discuter. Enfin, on ne sait pas. Toujours, ils arrivent. Regarde-nous. Regarde-nous. C'est ce que Pierre et Jean vont dire à cet homme. Et naturellement, lui, il s'attendait à recevoir de l'argent. Je pense qu'à sa place, on demande à quelqu'un un verre d'eau, la personne nous dit « ben regarde-moi », on s'attend à ce qu'il nous donne ce verre d'eau. Simplement, c'est pas ça qui va être dit, et on le sait, on l'a lu, on connaît ces textes. D'ailleurs, une autre version nous dira de ce verset 6 que nous aimons, lorsque Pierre dit, Louis II dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Une autre version dira, de l'argent, de l'or, je n'en ai pas. Ce que je possède, je te le donne. De l'argent, de l'or, j'en ai pas, mais il y a quelque chose d'autre que je possède. Et c'est cette phrase de Pierre qui va nous intéresser et ce soir nous amener ensemble à nous poser cette question, finalement, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Est-ce que tu as quelque chose? Quelque chose de plus que l'or et l'argent, forcément. Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu as? Cet homme, lui, si on devait lui poser cette question, il aurait résumé ainsi, et c'est pour cela que j'ai pris du temps pour résumer l'état de son cœur, parce que c'est important. Lui, à cet homme, si on lui avait posé « Mais et toi, qu'est-ce que tu as ?», il aurait dit « Ben voilà, j'ai les quelques pièces qu'on m'a données, et j'ai la belle porte du temple pour moi. » Est-ce que vous savez combien il y avait de portes dans le temple ? Il y en avait 9 portes. Elles avaient toutes des noms. Elles étaient plus ou moins différentes. Cet homme, lui, qui n'avait rien, qui était infirme, la seule chose dans sa vie qu'il avait, c'était cette belle porte et les pièces. Qu'est-ce que tu as ? Pour Pierre, la question, elle était réglée. Lui, il avait reçu, il avait et il pouvait communiquer. Ce qui doit quand même nous interpeller à nous qui avons fait cette expérience avec le Seigneur. La belle porte, quand même, lorsqu'on médite, j'ai recherché pourquoi elle était appelée ainsi. On explique, et c'est écrit, c'est les personnes qui ont réfléchi, qui ont un grand cerveau, qui ont expliqué tout ça, qu'il y avait un homme qui s'appelait Nicanor, qui avait fait un don, qui venait d'Alexandrie. Et cet homme avait fait un don pour que des portes, pour que la porte soit recouverte d'airain. Pour que cette porte en particulier ressorte parmi toutes les portes. C'était pas la même que toutes les autres portes. Et c'est pour ça que la parole nous dit qu'elle s'appelle la belle porte, parce qu'elle était particulière. Nicanor, ça signifie vainqueur. D'ailleurs, c'est un homme qu'on retrouve dans le livre des Actes un petit peu plus loin, qui fait partie des hommes qui ont été choisis pour servir. Ce qui nous amène, puisque c'est pas tellement Nicanor qui va nous intéresser ce soir, c'est pas tellement que la porte était recouverte d'airain, qu'elle était en bois travaillé, ce qui nous amène à comprendre cet homme qui voyait le temple, qui allait au temple, qui restait devant cette porte toute sa vie. Je ne sais pas si on se rend compte, on l'a pas lu, mais un petit peu plus loin, il nous est dit que cet homme qui avait été guéri avait plus de 40 ans. Alors, il n'y a pas été à sa naissance, mais s'il y a été à 20 ans, pendant 20 années, il est resté devant cette porte. Pendant 20 ans, cet homme s'est dit, mais moi, je n'ai rien, je veux que cette porte peut-être m'aide à passer la vie, je veux peut-être aussi m'identifier, je veux être un vainqueur, je veux prendre la revanche sur ma vie. Mais pendant 40 années, sa vie n'a pas changé. Pendant 40 ans, sa vie restait ainsi. Il pouvait se dire, mais peut-être que quand j'aurai des sous, ça ira mieux, je vais pouvoir être moi aussi un vainqueur. Et on l'entend, des personnes comme ça, qui veulent prendre la revanche sur leur vie, qui ont vécu étant enfants dans la misère, qui ont tout basé pour avoir un bon travail, pour avoir de l'argent, pour subvenir à leurs besoins, et ainsi ils vont pouvoir dire, mais voilà, j'ai pas fait comme mes parents ont fait, j'ai été mieux qu'eux, j'ai mieux réussi. Seulement, voilà, finalement, son état physique reflète son état spirituel. Et ces chants que nous avons chantés nous invitent à réfléchir, à saisir ce que Jésus-Christ a fait. Parce que la volonté du Seigneur Jésus-Christ, ce que les apôtres ont fait ce jour-là, les disciples, révèle finalement ce que Jésus veut faire. Jésus ne veut pas que nous puissions rester dans une vie virtuelle, à nous imaginer qu'on va pouvoir prendre revanche, qu'on va pouvoir y arriver. Et quand bien même on pouvait y arriver, on peut y arriver, ce n'est pas ça qui va changer notre cœur. Qu'est-ce que tu as dans ta vie ? Ton infirmité ? Cet homme aurait pu répondre, ça, voilà ce que j'ai. La belle porte, les pièces qu'on me donne. Mais j'ai mon infirmité aussi, j'ai mon péché, j'ai ma misère, j'ai mon chagrin, j'ai ma haine, ma colère, mon besoin de vengeance. On pourrait tellement multiplier les choses, on pourrait multiplier. Mais ce qui est important, finalement, c'est pas tant ce que nous avons, ce que nous croyons avoir, c'est comment est-ce que nous allons recevoir ce que Jésus veut nous donner. On peut se poser cette question, qu'est-ce que tu n'as pas? Lui, il aurait pu répondre tout l'inverse, mais on peut dire ce soir pour quelqu'un, c'est peut-être, mais j'ai pas la paix, j'ai pas le pardon, j'ai pas l'assurance du salut, j'ai pas une certitude, j'ai pas de direction. Et vous voyez, cet homme, moi je pense, ça doit et ça a dû le faire réfléchir, et nous, ça doit nous faire réfléchir. Parce qu'on sait que Dieu peut intervenir. On sait que ce que le Seigneur a fait ce jour-là, par l'intermédiaire des apôtres, c'est quelque chose qu'il veut nous faire. La version littérale que j'ai lue tout à l'heure de ce que Pierre va dire, lorsqu'il va dire « je n'ai ni argent ni or », la version littérale nous dit « de l'or, je n'en ai pas, ce que je possède, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, réveille-toi et marche ». Et cet homme devait se réveiller de son état, devait comprendre que Jésus-Christ a quelque chose, avait quelque chose à lui communiquer, et que nous, par la même occasion, Jésus a quelque chose à nous communiquer. Mais la différence, ce que nous devons comprendre et expérimenter, c'est que tant qu'on tourne le dos à Dieu, Dieu ne va pas pouvoir intervenir. Tant qu'on se fixe sur nos objectifs, tant qu'on se fixe sur le monde, tant qu'on croit qu'on peut se suffire à nous-mêmes, Dieu ne va pas réussir à intervenir. Il y a ce texte dans Osée qui nous dit « Ce qui cause ta ruine, Israël », et on pourrait mettre « Ce qui cause ta ruine, toi, l'homme infirme, toi qui es là, ce qui cause ta ruine, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir ». Une autre version nous dira « tu t'es détruit toi-même ». Et nous devons comprendre que on ne doit pas tourner le dos à ce que Dieu veut faire. On ne doit pas continuer dans cette voie si jamais on est sur une mauvaise voie. On ne doit pas s'entêter en disant « mais je vais y arriver, il n'y a pas de raison, moi je peux y arriver à prendre la victoire et à avoir cette revanche dans la vie ». Ce que Jésus veut faire, c'est nous donner cette assurance du salut. Et si on l'a, merci Seigneur. Et ce qu'il veut faire, c'est que nous puissions expérimenter si nous sommes sauvés. Mais peut-être il veut nous faire expérimenter ce que Pierre et Jean ont vécu ce jour-là. On n'a pas une grande intelligence, on n'a pas un pouvoir surhumain, on n'est pas mystique, on n'est pas déconnecté de la réalité. On n'est pas sur une autre planète, on n'est pas des très 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 spirituels qui banalisent tout. On est des hommes, on est des femmes, mais qui connaissons Jésus-Christ et qui peuvent communiquer leur foi, qui peuvent communiquer l'amour de Jésus-Christ, qui peuvent donner aux autres une parole de grâce, une parole de bénédiction. La foi en Christ, c'est ça qui a changé cet homme, qui a fait expérimenter cette nouveauté de vie, qui a changé sa vie, qui a changé son quotidien. 40 ans, je ne sais pas si on se rend compte. Je pense qu'on ne peut pas. Il est né ainsi. Pendant 40 ans, son quotidien, ça a été d'être porté par les autres. Ce n'était pas lui qui portait les autres. Ce n'était pas lui qui pouvait faire pour les autres. Mais c'est les autres qui devaient faire pour lui. Peut-être qu'on le mettait de côté, peut-être ceux qui le portaient, pour eux, c'était difficile, ils en avaient marre. Pendant 40 ans, cet homme n'a pas vu sa vie changer. Pendant 40 ans, ou je ne sais pas, 20 ans, 10 ans, 5 ans, le temps, ce n'est pas tellement ça. Pendant peut-être tellement d'années, il y avait Dieu qui était tout près. Mais il n'a pas voulu faire attention à ça. Vous savez, il y a un verset qui dit que Dieu est venu pour sauver ceux qui étaient loin et ceux qui étaient près. Le brigand sur la croix, lui, il était quand même loin. C'était un meurtrier. Celui qui était possédé par une légion, c'était quelqu'un qui était loin. Mais on peut être près, mais ce qui est important pour revenir à ce que nous avons passé, partagé au début, ce qui est important, c'est pas d'être loin, c'est pas d'être près, c'est de rentrer. C'est de comprendre qu'il faut passer la porte, comme l'a dit notre frère. C'est ça qui est important. Parce qu'on peut rester sur le seuil de la porte sans jamais franchir la porte. Cet homme était devant la porte, la belle, Et la prière était là, la communion avec Dieu était là, la bénédiction, parce que c'est là, dans la communion fraternelle, on connaît ces textes, que Dieu envoie la vie, la bénédiction. Mais cet homme, lui, c'était étranger, il était étranger à tout ça. Pierre connaissait Jésus-Christ. Et cet homme a vu sa vie changer, bouleversée, transformée, parce que à un moment donné, il s'est dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux aussi vivre d'une manière différente. Je veux peut-être quitter la belle porte. Est-ce que Dieu peut nous demander ça? Je veux quitter le fait de toujours demander. C'est moi qui veux donner aux autres. Est-ce que Dieu peut le demander? Eh oui. On avance un petit peu. Le verset 12. Et on voit là Pierre qui s'exprime. Tout le monde est étonné. Je pense qu'on aurait été aussi étonné. Tout le monde se pose des questions. Et le verset 12, la version littérale nous dit « Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de ceci ? Ou pourquoi avez-vous l'œil arrêté sur nous ? Comme si, par notre puissance ou notre sainteté, nous avons fait marcher cet homme. Pourquoi est-ce que l'œil est arrêté sur nous ?» Ce qui nous amène à une deuxième question, sur laquelle je ne vais peut-être pas trop m'étendre, mais sur quoi est-ce que notre œil est fixé ? Est-ce que ce soir, alors que nous partageons ce texte, nous comprenons que l'intérêt, c'est d'avoir le regard fixé sur Jésus-Christ, celui qui peut changer notre vie, où nous sommes toujours fixés sur l'environnement, le contexte, la manière dont le monde évolue, et ainsi, on anéantit, on annule la parole de Dieu, parce que on n'est plus fixé sur celui qui a le pouvoir de changer les circonstances et le temps. On connaît ce texte également où Jésus parle, sur quoi notre œil est fixé. Et lorsque Pierre va dire ça, ce n'est pas une phrase qui était là au hasard parce qu'il a été pris de court. C'est un homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit a voulu que ces lignes soient consignées pour que nous puissions être enseignés par cela. Parce que Jésus, lorsqu'il enseigne sur la nouvelle naissance, va prendre cet exemple et dire « Mais comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Et on se souvient que pour avoir la guérison, les hommes devaient fixer le serpent qui était élevé. Et on sait, et Pierre est en train de dire « Mais c'est pas moi, c'est pas nous qu'il faut regarder, c'est Jésus-Christ. » Et il y a des personnes comme ça qui sans cesse, peut-être pendant 40 ans, pour reprendre ce chiffre, ce nombre, pendant 40 ans n'ont pas compris que c'était Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Et ils cherchent parmi tellement de choses des solutions, ce qui ne les amènera jamais à la liberté. Parce que Jésus a dit que c'était la vérité qui affranchissait. C'est de rencontrer Jésus-Christ. C'est la croix qui doit nous amener à être libérés, à la repentance, à la conversion. Et cet homme, quand bien même il a été guéri, devait vivre aussi et a dû vivre cette expérience de la repentance et de la conversion, de la nouvelle naissance. Comprendre que la clé, c'est la croix. Ce qui nous montre quand même que sa vie avait changé. Et on l'a lu, c'est pour ça que j'ai insisté. C'est que la Bible nous dit qu'il va entrer avec eux dans le temple. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça a été instantané. La paix que Dieu veut nous donner, c'est instantané. C'est pas, écoute, voilà, on verra dans un mois si tu réussis à être fidèle. On verra d'ici 6 mois si ça va à peu près ta vie. Et après, on fait un entretien et on voit pour la paix, pour la joie. Non, c'est instantané. Cet homme est rentré dans le temple. 40 années sans que rien ne se passe. On lui présente Jésus-Christ. On pourrait dire, il fait l'expérience, il rencontre, il croit, il met sa foi. Jésus transforme, bouleverse sa vie. Et ce qui nous amène aussi à cette réalité de vie, je ne sais pas si vous avez prêté attention lorsque nous avons lu le texte, c'est que cet homme, il va changer de lieu. Il était à la belle porte du temple, Et cet homme, il va rentrer dans le temple et se trouver au portique dit de Salomon. Alors le portique dit de Salomon, peut-être ça vous dit pas grand-chose. Si, ça, Nicolas, oui, il dit, oui, ça lui dit. Mais c'est quand même un endroit particulier. Jésus-Christ y a été, les disciples y ont été. Il y a eu des miracles qui ont été produits là. Mais c'est à cet endroit, alors vous allez dire peut-être je vais trop loin, mais je pense que quand même ça doit nous enseigner parce que cet homme n'est pas resté au même endroit. Il est entré dans le temple, il a changé d'endroit, sa vie a changé, a été bouleversée. Le portique de Salomon, c'est cet endroit, et c'est écrit dans Jean chapitre 10, c'est cet endroit où Jésus a enseigné qu'il était le bon berger. Jésus n'a pas donné cet enseignement ailleurs, dans un désert, dans une autre ville, ou que sais-je. C'est là qu'il a donné cet enseignement. C'est là où Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. » Et vous voyez, moi je pense que cet homme, peut-être je vais trop loin, je sais pas, mais peut-être pour quelqu'un ce soir. Vous voyez, si Jésus veut nous faire changer d'endroit, c'est toujours pour qu'on puisse apprendre à le connaître davantage. C'est toujours pour qu'il puisse se révéler d'une manière différente. Parce qu'avant, cet homme, il connaissait pas la voix de Dieu. Avant, cet homme, il suivait personne parce que c'était lui qui était obligé de suivre les autres. On le sait, on va pas revenir sur le contexte. Mais là, cet homme, il va vivre autre chose. Il va pouvoir vivre une relation avec Dieu. Et c'est ça que Dieu veut nous offrir. C'est ça que Dieu nous offre. C'est cela le message de l'Évangile, la bonne nouvelle. C'est Dieu qui fait qu'on puisse entendre sa voix et que lui entende notre voix, qu'on peut le suivre, qui veut nous offrir la vie éternelle. Sa vie va changer parce que là, c'est lui qui va décider où aller, de son propre chef. Il va pas être contraint, il va comprendre. Et s'il n'avait pas compris, nous, on peut le comprendre. Parce que c'est ce que Jésus-Christ veut. Que nous puissions saisir qu'il veut nous diriger, que c'est lui le bon berger. Qui veut plus qu'on soit perdu. Qui veut plus qu'on soit meurtri. Qui veut plus qu'on porte nos infirmités tous les jours de notre vie. Il veut pas qu'on porte notre misère tous les jours de notre vie. Jésus veut se faire notre bon berger, le berger de nos vies. Il veut nous offrir la vie éternelle. Et je pense que ce soir, si nous sommes dans cet état, si nous connaissons sa voix, laissons-le nous diriger. Si nous sommes rentrés, si nous avons passé la porte, merci Seigneur, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai à donner? Est-ce que j'ai seulement de la haine à donner? Excusez-moi si j'y reviens. Est-ce que j'ai seulement de l'amertume à donner aux autres? Est-ce que j'ai seulement de la colère? Est-ce que j'ai... Et on pourrait multiplier. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que Dieu est toujours derrière toi, tu ne prends pas attention après maintes et maintes appels? Ou est-ce que tu décides de te tourner vers Dieu, de tendre ta main pour qu'il puisse te saisir, te réveiller. Réveille-toi. Réveille-toi, mets-toi debout, mets-toi en marche. Change de lieu. Change de lieu. La belle porte, c'est valable pour le monde, mais c'est pas valable pour ce que Dieu les appelle. La belle porte, elle brille peut-être, mais derrière, c'est que du bois. Pour toi, ce que Jésus veut faire, c'est transformer et bouleverser ta vie. C'est que tu sois réveillé, debout, pour donner aux autres ce que tu as reçu. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors ce soir, je vais arrêter là. On a le choix, vous savez. Est-ce qu'on reste encore dehors? Est-ce qu'on reste devant la porte? Ou peut-être qu'il est temps qu'on se réveille et qu'on dise « Seigneur, conduis-moi, je veux entendre ta voix. Je veux me laisser diriger par toi. Je te veux pour berger. » Vous savez, si Jésus-Christ a versé son sang sur le bois de la croix, j'ai fait allusion à cet enseignement qui donnait, de même que le serpent a été élevé. Il faut que Jésus, il faut que moi aussi je sois élevé, il pourra dire. Il faut que ton œil soit fixé sur la croix pour que tu puisses saisir ton état et demander pardon si tu dois demander pardon. Et que tu, ou alors, si c'est fait, merci Seigneur, mais pour que tu puisses recevoir pour donner, parce que la nuit arrive bientôt. On peut prier le Seigneur un instant ? Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces enseignements, cet encouragement, merci de nous permettre d'expérimenter ce changement de vie. Seigneur, tu connais, tu sais les cœurs, et ce soir nous voulons être devant toi, recevoir ce que tu veux nous donner, tendre nos mains, Seigneur, parce que si nous avons besoin d'être réveillés, c'est pour notre bien que tu veux le faire. Si nous devons changer d'endroit, parce que tu ne nous appelles pas à rester à la belle porte, tu nous appelles à expérimenter cette vie abondante. Seigneur, montre-nous, aide-nous, mais que nous puissions toujours expérimenter ton salut, ta grâce, ta miséricorde. Et si quelqu'un est encore étranger à ton alliance, si quelqu'un est encore dans le flou, si quelqu'un te tourne encore le dos parce qu'il croit qu'en regardant dans le monde, il y a la solution, mon Dieu, parle à son cœur, qu'il puisse fléchir les genoux devant toi. Seigneur, sois béni et honoré au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen.